Projection privée. Bonjour, cette émission est consacrée à deux films, Les Ogres qui sort mercredi prochain et Suite Armoricaine qui vient de sortir donc mercredi dernier. Ce sont deux films dont on peut dire, en tout cas pour ce qui me concerne, et pas seulement moi, qui vont marquer l'année cinématographique dans le cinéma français. Ce sont deux films hors normes, qui nous changent des films mis sur des rails et qui roulent parfaitement jusqu'à la fin. Ce sont des films choraux, tous les deux, de façon très différente. L'un est très expansif. C'est Les Ogres de Léa Fener, et l'autre est une réflexion peut-être plus intériorisée, qui est celui Suite Armoricaine de Pascal Breton. Enfin, je ne sais pas si elles seront d'accord avec mon opinion, mais donc j'ai pensé les réunir pour ensemble parler de ces deux films, qui aussi sont deux films qui sont les seconds films de leurs auteurs, puisque Léa Fener avait obtenu d'ailleurs le Deluc. Elle était venue parler de son film à ce micro pour Qu'un seul tienne et les autres suivront, qui avait eu donc le Deluc du premier film en 2008, donc il y a 8 ans. Et puis Pascal Breton, c'est son deuxième film depuis Illumination, qui lui était de 2004, c'est-à-dire ça fait 12 ans, donc 8 ans, 12 ans. Comment l'expérience donc déjà de faire un deuxième film, peut-être on pourrait commencer par là, Pascal Breton.
En fait, ça devrait être un quatrième ou cinquième film, c'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai travaillé sur plusieurs projets de films qui n'ont pas pu être financés.
Donc, j'aurais aimé voir celui sur Gracchus Babeuf.
Bah oui, moi aussi. J'aurais bien aimé le faire. Et ce projet-là, ça a été un scénario qui plaisait beaucoup. J'allais jusqu'au casting, mais on n'a jamais réussi à obtenir le début d'un financement, c'est-à-dire l'avance sur recette a été refusée 4 fois. Et puis, on a dû renoncer à ce projet. Et j'ai commencé justement à écrire Suite Armoricaine. Vraiment, c'est comme un film que j'ai écrit presque contre le Gracchus Babeuf, sur la déception de ne pas faire mon Gracchus Babeuf.
Léa Fener.
Nous avons eu le prix Louis Deluc en 2009, donc c'est 15 ans de différence par rapport à ce que vous dites, c'est pas énorme. Mais évidemment, il y a une grande distance entre les deux films, pour des raisons, alors là, beaucoup plus de l'ordre de la vie. Voilà, il y a pas longtemps, moi j'entendais Abderrahmane Sissako dire qu'il avait mis du temps entre ces deux films parce qu'il avait eu deux filles. Et je trouvais ça assez agréable d'entendre ça aussi de la bouche d'un homme. Et pour moi, c'est à peu près la même chose, voilà. Et c'est tellement compliqué de faire un film comme ça, qui nous prend à la passion dévorante, de faire un métier avec autant de passion et de pas sacrifier la vie à l'hôtel du cinéma, que parfois il y a des espaces de temps qui se font, mais qui nourrissent profondément, je pense, le film. Et Les Ogres n'existeraient pas sans ce temps-là à réfléchir à ce que c'est la famille, ce que c'est l'amour, voilà, ce que c'est.
Je crois le fait que vous soyez des femmes compte beaucoup dans ce temps que vous accordez au temps, dans la mesure où je vois pas Scorsese disant je dois faire un film par an et je peux pas m'arrêter 4 ans pour m'occuper de l'éducation de mon fils. C'est intéressant.
C'est pas mon cas en tout cas, mais bon.
C'est pas votre cas.
Et c'est le cas de Sissako. Et c'est le cas de Sissako. Donc en fait, est-ce que c'est femme, est-ce que c'est homme?
Je n'ai pas du tout eu l'intention de. C'est plutôt l'inverse. Je pouvais pas imaginer d'avoir d'enfants tellement j'aime le cinéma.
Oui, non, mais bien sûr, chaque personne réagit, bien sûr, de façon différente. Voilà, donc, ce sont deux films, je le disais, hors normes, aussi par leur durée. L'un fait 2h26 et l'autre 2h28. Ce sont des films qui sont des films fleuves. En même temps, évidemment, ils vous agrippent et ils ne vous lâchent pas. Donc, c'est pas le problème de la durée qui est important. Je voudrais pas faire des comparaisons écrasantes pour commencer, mais je pense que, pour moi, le film de Léa Fener m'a fait penser à un scénario de Robert Altman, par son côté chorale, justement, une troupe itinérante qui est entre le cirque et le théâtre, mais qui joue du Tchekhov et qui se promène à travers la France avec la famille, les jeunes, les parents, les conflits, enfin tout ce qu'il peut y avoir. Donc, je disais, un scénario de Robert Altman filmé par Cassavetes. C'est-à-dire qu'il y a chez Cassavetes, comme chez votre film, Léa Fener, une sorte de pulsion, d'émotion très forte, des prises de bec, un torrent d'amour. retour, comme le fameux film de Cassavet, Love Streams. Et Pascal Breton, votre nom déjà le dit, Breton, votre film le dit une deuxième fois, Suite armoricaine. J'ai pensé à un autre cinéaste qui m'est très cher et qui est aussi une référence qui peut sembler écrasante, c'est Alain Resnais. J'ai pensé à le choc que j'ai eu en voyant Suite armoricaine, c'est un peu ce que j'avais ressenti devant Muriel, par exemple, c'est-à-dire une sorte de jeu sur le temps, comme celui de Léa Fener est plus un jeu sur l'espace, votre film est plus un jeu sur le temps. Alors Resnais, c'est l'autre cinéma celtique, celte comme vous. Est-ce que vous revendiquez cette comparaison?
Oui, Alain Resnais, bien que nous soyons de générations assez distantes, a été nourri des mêmes, par exemple, du livre d'Anatole Lebras, Les légendes de la mort en Basse-Bretagne, qu'on nous lisait quand on était petit. Et j'ai découvert qu'il avait eu aussi cette lecture, qu'on lui lisait ça quand il était petit. Et ce sont bien sûr des récits qui constituent un imaginaire. Avec le monde des morts et celui des vivants qui se côtoient, des passages fantastiques de l'un à l'autre, hein, et une réalité qui vacille comme à la lumière du feu le soir ou avec le vent qui souffle. Il a été nourri par ça. Ça, c'est une des rares choses qu'il a pu dire, d'ailleurs, sur son origine bretonne, dont il n'a pas voulu faire quelque chose de public, en fait. Il a déplacé la Bretagne vers les îles britanniques en faisant ses films anglais, mais même parfois en Espagne quand il a fait son film La guerre est finie, que j'aime énormément, où finalement chaque passage des Pyrénées est accompagné d'une pluie, enfin on a l'impression d'être en Bretagne alors que c'est un film un peu espagnol.
Mais je pensais à Mon oncle d'Amérique,
évidemment
avec les paysages bretons, qui pend la fin de votre film avec ce magnifique plan final de paysage m'a semblé retrouver un peu l'esprit de Resnais, qui est un ancien documentariste et qui mélange le documentaire et le mythologique, un peu comme votre film.
Oui, en effet. Après, la dimension de l'espace est importante dans mon film. Bon, évidemment, tous les films parlent d'espace, mais j'aime bien la phrase du poète Kenneth White qui dit que lui part de la géographie pour arriver à l'histoire. Et de la même manière, dans le film, le temps se dégage en quelque sorte des lieux et donc nous avons un étudiant géographe aussi. Donc la géographie joue un rôle très important pour voyager dans le temps et puis pour à la fin se cristalliser l'instant, dans l'harmonie de l'instant. Que l'instant redevienne un lieu harmonique, qui soit plus en train d'être distrait par l'ailleurs, le passé, le futur, le désir qui s'égare. Et à ce moment-là, les personnages d'ailleurs s'effacent, sortent du champ et le spectacle du paysage est offert au public. C'est-à-dire à la fin, c'est la relation du film et de son public.
Léa Fener, alors donc, j'ai évoqué ces deux noms. Mais je pense que le film a une base de toute façon pas cinéphilique. un metteur en scène ne pense pas à Cassavetes ou Altman, mais plutôt personnel, familial, puisque cette troupe, c'est une troupe que vous avez bien connue.
Oui, le film, il a ses racines comme ça, profondément dans le vivant de ce que j'ai pu partager dans mon enfance, et qui est donc l'expérience du théâtre itinérant, de ces hommes et de ces femmes comme ça qui parcourent la route avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'insolence pour pouvoir amener le spectacle et le théâtre là où il n'y en a pas, et qui le font de manière assez singulière dans le sens où ils embarquent la famille, les caravanes, les chapiteaux, mais la famille surtout dans cette aventure-là de partage du théâtre et des mots, avec cette chose-là très fragile qui est un chapiteau et qui tout d'un coup intimide moins. Et c'est ça que je trouvais passionnant, entre autres, c'est comment des hommes et des femmes cherchent à réduire l'espace d'intimidation entre le public et une œuvre, font des passerelles comme ça pour que quelque chose puisse se partager. Et ça se fait avec leurs désordres familiaux excessifs, puisque j'avais vraiment envie dans le film de renouer comme ça un peu avec des personnages en couleur, avec du panache, avec de la grande diloquence, avec peut-être aussi le côté un peu monstrueux que par exemple, comme vous dites, Cassavetes s'est si bien regardé, comment il s'est regardé dans le corps des hommes avec les défauts, les excès, mais avec tellement de tendresse qu'il essaie, en tout cas dans une tentative souvent réussie, mais de donner à aimer ceux qui peuvent avoir de l'arrogance, de la malhonnêteté, de la mauvaise foi, de le donner à l'aimer maximum possible. Mais donc voilà, mon film, il est très inspiré de cette aventure que j'ai partagée enfant, et en même temps profondément, je l'espère, romanesque. J'ai essayé de retranscrire plus le souffle romanesque que d'essayer de m'attacher à une quelconque biographie, le souffle romanesque de ces histoires, voilà.
Parce que, évidemment, votre enfance, c'est la route, c'est cette troupe itinérante, puisque, et même, vous allez jusqu'à demander à vos parents, François Fenner et Inès Fenner, de jouer dans le film.
Et aussi Marion Bouvarel, qui n'a pas le même nom que moi, mais qui est ma mère.
Voilà, donc la famille se retrouve dans le film, mais je crois qu'au départ, c'était pas volontaire.
Non, c'est vraiment arrivé dans un processus d'écriture. Le premier processus d'écriture, qui était avec Catherine Payet, a été une manière de s'amuser à trahir et réinventer ces histoires qui étaient miennes, d'amener comme ça dedans de la fantaisie, de l'imaginaire. Et puis, il y a eu un moment où on a eu envie de la voix du groupe. Et on a fait improviser la compagnie de mes parents sans du tout penser qu'ils allaient pouvoir interpréter des personnages qui étaient une fiction d'eux-mêmes, comme ça, dans un jeu de poupées russes. Et ce qu'ils ont proposé lors de ces improvisations était terriblement troublant et à la fois très simple, généreux, tranquille, sans psychodrame. Et je me suis dit qu'on allait tenter ce défi-là, ce défi du film de tribu, ce défi de jouer avec le feu de nos relations, avec évidemment tous les risques que ça comporte, mais en se disant que le plaisir du spectateur, il est aussi, comme quand il regarde un funambule, de l'éventualité de la chute, du risque pris.
Pascal Breton, alors, suite armoricaine, d'abord le titre, évidemment, fait penser à la musique, et la musique joue un rôle important dans le film. Mais donc, ce personnage, joué merveilleusement par Valérie Dréville, dont c'est le premier grand rôle au cinéma, qui est une actrice qu'on a beaucoup vue au théâtre, une grande actrice, mais vous lui donnez vraiment un grand rôle, qui a décidé de revenir dans l'Ouest, dans la Bretagne. Elle était professeure à Paris, elle est professeure d'histoire de l'art. Et donc, elle revient, elle enseigne à l'université de Rennes. Et le film va être une sorte d'exploration de son rapport au passé, de son rapport à des générations plus jeunes, à des gens de sa génération aussi. Le début du film, par un montage, évoque l'âge du rock de sa jeunesse. Vous avez établi un peu ce personnage central, mais... Comme je le disais, le côté aussi choral avec beaucoup d'autres personnages, une jeune fille aveugle, un garçon qui vit très mal avec de coexister avec sa mère. Voilà, c'est un point de départ et on peut penser que ce film reflète aussi certaines de vos préoccupations à travers le personnage de Valérie Dréville.
Je suis partie de l'université, en fait. Le scénario est vraiment né de l'envie que j'ai eue en 2011, je crois, je suis allée à Rennes 2 pour une copie que j'apportais au cinéma, l'excellent cinéma de l'université, de mon film Illumination. Et j'ai revu Villejean, ce quartier de l'université que je n'avais pas vu depuis l'époque où j'étais étudiante. Et j'ai trouvé le quartier magnifique avec les arbres qui avaient poussé. Et j'ai eu envie de faire un film là. Donc c'est vraiment parti du lieu. Ensuite, j'ai créé des personnages qui puissent décrire l'université et définir l'espace aussi du temps. C'est-à-dire que ça se déroule sur une année universitaire de septembre à avril, puisque maintenant l'année universitaire se finit en avril. Donc je suis partie de là, j'ai créé ces personnages qui me permettaient... Donc, par exemple, la jeune aveugle, j'aime beaucoup dans les choses... On a toujours peur de donner l'idée « c'était mieux avant ». Alors, je cherchais des choses que je trouve positives dans le monde actuel. Et par exemple, je trouve très bien que l'université permette à des étudiants handicapés de suivre des études. Ça, je trouve que c'est une chose qui n'existait pas à mon époque. Et je suis très heureuse que ça soit possible pour eux maintenant. Donc voilà, j'ai créé tout cet ensemble de personnages. Mais on découvre toujours par des scènes, c'est pas quotidienne, mais c'est comme si on prélevait des morceaux de temps dans l'université et on découvre par des dialogues qui ne sont jamais explicatifs. Enfin, on découvre des pans de leur passé. Le point de départ pour Françoise, c'est sans doute que quelque chose qui a été observé
Françoise
par...
Françoise est l'héroïne, évidemment, de votre film.
Valérie Dréville, qui est une actrice extraordinaire, mais extraordinaire. Et le point de départ, c'est cette remarque qui a été faite par des psychanalystes que les Bretons interrompent. Enfin, quand on fait une psychanalyse, il y a quelque chose qu'on appelle le passage à l'acte. Souvent, il y a par exemple tomber enceinte, il y a par exemple avoir un accident, quelque chose qui interrompt l'analyse justement au moment où on tombe en quelque sorte sur une vérité de soi-même ou une vérité. une réalité de soi. Et pour les, dans le cas des Bretons, très souvent, ils interrompent leur psychanalyse en partant en Bretagne et en ne revenant plus. Parce que tout à coup, leur souvenir afflue et que le monde englouti qu'ils ont connu... Je parle de ceux qui, comme moi, ont grandi... avec la langue bretonne, qui, enfin, comment dire, mes grands-parents parlaient mieux breton que français. Mon arrière-grand-mère ne parlait pas français. Enfin, trois de mes arrière-grands-parents, deux, pas du tout. Ensuite, mes parents parlaient mieux français que breton, enfin, parlaient français.
Et vous ne parlez plus du tout breton.
Et moi, je connais 100 ou 200 mots. J'ai pas d'enfants, mais mes neveux et nièces, ils en connaissent 3 ou 4. Et donc, en peu de temps, une culture entière, c'est-à-dire une langue, mais aussi des pratiques de sociabilité ont été englouties. Alors du coup, c'est donc il y a cet inconscient, mais on essaie de s'en sortir bien, on essaie d'être fort et digne, et de pas le montrer, mais en fait très très vite la façade peut s'écrouler et on peut très facilement faire pleurer n'importe quel Breton en posant. Là, c'est vraiment parce que j'ai fait ce film, j'y arrive. Avant, je pouvais même pas dire ce que je dis sur mes grands-parents sans pleurer. Le film m'a aidé à donner une forme à cette sensation de perte.
Alors, Léa Fener, puisqu'on parlait de Valérie Dréville et des comédiens, dans votre film, il y a donc votre famille très présente, mais il y a aussi des grands comédiens. Il y a ce couple extraordinaire dans le film, formé par Adèle Hanel, qu'on a vu en particulier dans Les Combattants, et qui retrouve ici une énergie semblable. Et puis Marc Barbet, qui était déjà, qui jouait un personnage très louche dans Qu'un seul tienne et les autres suivront. Donc ce mélange, et je suppose qu'il y a même peut-être des noms professionnels dans la troupe.
C'est vrai que c'était un mélange explosif, qu'il n'y a pas de noms professionnels dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire que moi j'avais cette chance-là d'avoir en fait que des comédiens. Donc des comédiens de théâtre, des comédiens de cinéma, mais que des comédiens, que des gens qui ont à cœur comme ça d'abandonner quelque chose au spectateur, de dévoiler, de déchirer comme ça des voiles pour dévoiler quelque chose de leur être en partage avec leur personnage. Et oui, j'ai eu la naïveté de me dire que j'avais envie que ça soit les meilleures personnes pour chacun des rôles. Et il s'est avéré que pour ces rôles de Monsieur Desloyal, de Mona, qui sont interprétés par Marc Barbet et Adèle, ces deux grands comédiens m'ont impressionné dans leurs propositions lors de casting. Ils avaient pour l'un à la fois la capacité à être très sombre et arriver à mettre du rire et de l'exubérance dans ce qui était désespéré pour Marc Barbet, et à la fois pour l'autre, Adèle, ce qui était si difficile à trouver pour ce personnage, c'est-à-dire ce mélange d'insolence, de puissance et de très grande légèreté et d'enfance. Voilà, et ça a été quelque chose de très beau sur le tournage de les réunir, parce que je pense qu'au final j'ai choisi des grands curieux, donc des curieux de ce que le cinéma pouvait apporter comme nouvelle expérience, des curieux de ce que le théâtre de rue pouvait apporter comme nouvelle expérience. Et ils ont eu comme ça sur le tournage une grande douceur et bienveillance les uns vers les autres. Ils étaient 15, ils étaient très nombreux sur le plateau. Il y avait 15 comédiens, il y avait 8 enfants. Il y avait voilà, quelque chose de l'ordre de la tentative du groupe, autant à l'épreuve dans ce que raconte le film que dans ce qu'on a vécu sur le tournage. Et ils étaient chacun à se transmettre ou à essayer de soigner les appréhensions des autres. L'appréhension comme ça chez les comédiens de théâtre de cette caméra qui est très proche de vous, ou qui est à une distance, je l'espère juste, mais qui est là pour regarder ce battement au plus proche sans phare. Comme dit Adèle, il n'y a plus aucun endroit où se cacher sur un plateau de cinéma. Et en même temps, l'appréhension que pouvaient avoir les acteurs de cinéma sur ce courage un peu arrogant et du coup de l'inconfort et de l'inattendu qu'ont les gens de théâtre de rue à tout d'un coup aller alpaguer le spectateur sans filtre, sans filet plutôt. À leur dire, venez, embarquez-vous dans cette histoire avec nous, on vous apporte ce rêve, ce désordre, enfin voilà. Et j'ai l'impression que cette curiosité que les gens avaient l'un de l'autre a vraiment permis cette chose qui était un peu un défi du film, c'est-à-dire de créer une troupe avec du passé, avec des souvenirs, avec de l'épaisseur de la vie qui a pu les souder, et en même temps le faisant à la manière d'une troupe comme les gens de théâtre le font, c'est-à-dire je le fais avec des historiques, des gens que j'aime de tout mon cœur, et des gens que je rencontre sur le bord du chemin, et que j'ai envie aussi d'embarquer dans l'aventure.
Est-ce qu'ils sont restés tout le temps pendant le tournage? Est-ce que vous avez maintenu la troupe également? finalement dans la réalité du tournage.
Moi, je crois qu'après mon premier film, je me disais que voilà, j'avais sur le premier film essayé de respecter de manière peut-être presque trop appliquée les us et coutumes du cinéma. J'étais assez jeune sur le premier film, j'avais 26 ans, j'étais impressionnée par ce que c'est un tournage et le monde qu'il y a sur un tournage. Et après le premier film, je me suis dit non, qu'il fallait réinventer à chaque film ses us et coutumes, à chaque film ses conditions de production. Et on a beaucoup réfléchi avec le producteur, avec le directeur de production, avec l'assistant réalisateur, à comment faire cette espèce de prototype étrange entre le théâtre itinérant et le cinéma pour ce film, à essayer de rendre le projet aussi collectif que ce que les hommes et les femmes racontés par mon film défendent, à oui, mélanger la famille et le travail à l'image de ce que les personnages aussi défendent, et parfois aussi à confronter comme ça notre écriture, notre désir de friction aussi, au souffle du groupe, à l'écriture de plateau. Voilà, il y avait... Donc oui, ça passe par des choses très simples qui sont essayées à tout craint, d'avoir tout le monde tout le temps, qu'il n'y ait pas de premier et de deuxième plan, mais qu'au contraire, la manière qu'a la caméra, comme ça, d'embrasser, à la fois dans son mouvement, dans sa danse, mais aussi dans son épaisseur de premier, deuxième, troisième plan, que ça soit quelque chose qui raconte profondément ce que c'est cette tentative du groupe, du collectif, d'être ensemble.
Pascal Breton, alors, votre film, je disais, ce qui me frappe dans ces deux films, c'est leur ambition. Je trouve que c'est pas la peine de faire du cinéma si on n'a pas l'ambition de faire quelque chose d'original et de fort. Puisqu'il y a tellement de films, tellement de livres, pourquoi en ajouter un de plus? On sent vraiment dans vos films, oui, une exploration. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression qu'on a vu ce film-là auparavant, même si j'ai fait des références cinéphiliques. Alors, ce qui m'a frappé aussi dans ce film, dans votre film, c'est la façon dont vous utilisez le métier de cette femme, qui n'est pas du tout... elle est professeure d'histoire de l'art, comme une autre dans un autre film, professeure de philosophie. On ne voit pas tellement de rapport du tout entre son exercice de son métier et l'histoire qu'on raconte. Tandis que chez vous, c'est très important. Elle passe des diapositives, elle parle de l'art, elle parle en particulier des bergers d'Arcadie, le tableau de Poussin, elle parle même d'un tableau de Patinir, qui est un tableau sur Charon traversant le Styx. Elle parle et aussi le musée des Beaux-Arts de Rennes qu'on va visiter. Tout cela est en harmonie avec votre film. C'est-à-dire que, par exemple, l'Arcadie, est-ce que c'est pas l'Armorique d'une certaine façon? Est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement à trouver? Est-ce que dans le tableau de Patinir sur Charon traversant le Styx, elle se met à évoquer justement le l'été, le thème de l'oubli qui fait partie de l'histoire que vous racontez, l'oubli, le rapport au passé, etc. Donc, c'est une très très belle idée qui est totalement incarnée à l'écran. Ce n'était pas des références pour faire chic, pour faire culturel, mais qui sont intimement liées au sujet du film.
En fait, souvent dans les scénarios au cinéma, on cherche le métier d'un personnage comme si c'était... on cherche le prénom, on cherche le métier, on cherche... comment il s'habille, mais on ne part pas de... moi, j'essaie de faire en sorte que tout soit du côté de l'être. C'est-à-dire, le travail qu'on fait, chacun d'entre nous, signifie beaucoup plus qu'une apparence ou une fonction. Le travail qu'on a choisi n'est pas une fonction. On s'incarne dans son activité sociale. Le travail est une activité humaine dans laquelle des choses extrêmement secrètes s'expriment sur notre être. Et ça m'intéressait d'aborder le travail sous cet angle dans un film sur l'université, puisque on arrive à l'université en étant un oisillon tombé du nid, en quelque sorte encore avec les caresses de sa maman ou les gronderies de son papa ou l'inverse. Et ensuite, on doit devenir un humain dans la société, trouver un métier. Et comment choisir un métier? C'est une chose qui m'intrigue beaucoup. Donc, cette question était là. Pourquoi Françoise, à l'époque où elle est arrivée en pleine mouvance, apparition de la scène post-punk rennaise, pourquoi à ce moment-là, elle a choisi l'histoire de l'art? Pourquoi Yon choisit-il d'étudier la géographie en arrivant de nulle part?
Yon, c'est le garçon dont j'ai parlé. voilà, qui a une mère avec laquelle il est en relation conflictuelle, qui est presque une SDF, presque.
C'est une femme, sa mère, qui est une sorte d'anarchiste punk qui est passée par le mouvement des Free Parties, qui est quelque chose qui est soutenu par aussi une pensée politique et qui effectivement a vécu cet échec des libertés extrêmes. Donc chacun choisit son chemin. Pour revenir à la question sur la peinture, le film sert à raconter aussi, enfin, comment Françoise, par son travail, par même son œuvre en tant qu'historienne de l'art, parce qu'on suppose qu'elle écrit des articles, on la voit très investie.
Elle participe à un colloque.
Voilà. Comment Françoise a, par son métier, trouvé une forme à quelque chose de son enfance qui n'est pas réglé. Et donc, elle a construit sur le paysage armoricain, effectivement, elle a masqué derrière une Arcadie gréco-latine.
Vous êtes sur France Culture, projection privée, Michel Simon.
Léa Fener, sans faire un rapprochement artificiel, chez vous, c'est pas la peinture, c'est le théâtre. C'est-à-dire, en plus, des pièces de Tchekhov, peu connues, des farces qui vont mieux avec l'atmosphère du cirque. Une troupe itinérante, c'est-à-dire l'ours, la noce, qui sont deux pièces de Tchekhov. Et je crois aussi une autre qui vous a influencé, c'est Platonov, qui est une pièce de jeunesse qui a été redécouverte et qui a été jouée par Villard en particulier.
Oui, c'est assez beau, enfin, ce que vous dites quand même sur l'enfance. Je trouve que même si c'est très différent, c'est vrai que hier on me disait que voilà, on est de son enfance comme on est d'un pays. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, comment être nourri, comment c'est une culture, ce qu'on a traversé, que ce soit une culture, comme vous la décrivez, bretonne, mais aussi, voilà, comme celle que m'ont fait partager mes parents, de ce choix-là d'aborder la route et d'avoir envie de transmettre. Et c'est vrai que, ben, ces mots, qui ont peuplé mon enfance, ces verbes de Tchekhov, ce goût pour cette œuvre, ils m'ont profondément marqué dans le désir de faire ce film. Alors oui, on choisit l'idée de farce, parce que c'était un choix comme ça très fort de la part de ces compagnies, de se dire qu'avec les farces, la forme cabaret, ben on, encore une fois, on permet de permettre d'entrer aux gens qui ne connaissent pas ces œuvres, d'avoir des rampes d'accès, voilà, pour plonger dans la beauté de ces mots. Mais je crois que si Tchekhov, je tenais autant à ce qu'il soit là, présent dans le film, c'est qu'à la fois, c'est quelqu'un qui parle de communauté, très fort, de manière comme ça, sensible, dans les détails, on est ensemble, il y a toujours une personne derrière, parce qu'elle n'a pas bien entendu, parce qu'elle est sur une autre ligne d'autoroute que les autres, qui peut arriver à ramener comme ça du dérisoire, du décalage, dans la tragédie que les autres peuvent être en train de vivre, et cette beauté-là du groupe, de ces contrastes, qui est comme un carburant comme ça, qui permet de continuer, malgré les heurts de ce qu'on a à affronter. Et en même temps, vous parliez de Platonov, les gens de la compagnie ont beaucoup aussi écrit leurs chansons à partir de la lecture des nouvelles de Tchekhov. Et il y a quelque chose, moi, qui me trouble profondément et qui, pour moi, est comme un programme chez cet auteur, c'est cette manière qu'il a de sans cesse essayer d'être impitoyablement lucide avec les êtres qu'il décrit, avec précision, mais toujours avec une immense tendresse, ne reniant rien des inquiétudes, des faiblesses des uns et des autres, et en même temps les regardant avec l'amour le plus profond. Et voilà, pour moi c'est un défi même de cinéma, en fait, essayer de donner à aimer tout en étant d'une très grande lucidité. Voilà.
Pascal Breton, je voudrais qu'on parle aussi du rapport scénario-filmage. Et quelle est la part de... Est-ce que vous établissez un scénario très rigoureux et qui ne bouge pas beaucoup avec la mise en scène, avec le film, ou est-ce qu'au contraire, vous accordez une place, disons, peut-être à l'accident, à l'improvisation parfois?
Alors, j'écris des scénarios très écrits, et tout est écrit très... J'ai peu évolué, en fait. En revanche, j'évolue peu. Le scénario reste le même à chaque fois. Parce que le scénario, c'est pas un texte, c'est le plan du film. Donc,
c'est un dessin d'architecture.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les mots qui sortent de la bouche, mais aussi l'espace qui est décrit. Les scènes sont écrites d'une manière où beaucoup de plans sont déjà lisibles. Mes assistants arrivent très vite à savoir combien de plans je veux faire, même on fait plus le découpage technique dès le scénario, comme on faisait à une époque. Mais donc il bouge peu, mais il s'adapte légèrement, parce que après ça bouge parfois en bougeant un mot ou un détail, ça change mais énormément de choses. Et là, comme j'avais le loisir entre les périodes de tournage qui donc étaient espacées pour les raisons des saisons, puisqu'on a tourné sur toute l'année universitaire, on tournait une semaine en septembre, on retournait deux semaines en novembre, etc. Donc j'avais le temps d'adapter les personnages. Après, ça peut m'arriver le matin même, en fonction de la météo, de décider on tourne dehors et on tourne pas dedans. L'acteur va faire ci, donc il y a des détails qui viennent. Mais en réalité, j'arrive sur le plateau avec un découpage qui est fait. Et les acteurs, je répète avec eux avant. Et là, c'était très pratique avec ce découpage, où j'avais vraiment le temps avec chaque acteur de répéter entièrement les scènes. Et ensuite, sur le plateau, je m'occupe très peu d'eux. Ils savent leur rôle, je vais leur glisser un mot à l'oreille entre les prises et je travaille sur vraiment le cadre, les focales, sur le cinéma pur, la place de l'acteur dans le cadre. Mais les acteurs aiment bien cette manière de travailler parce qu'ils sont débarrassés de toutes les dimensions, disons, psychologiques, parce qu'on passe toujours par pourquoi le personnage dit ça, pourquoi il fait ça. On prépare aussi, par exemple, Lydie, Mon, donc la jeune aveugle, monte sur les épaules de Yon.
Oui, d'ailleurs, c'est un tableau de Poussin.
Oui, c'est repris
C'est Orion aveugle.
Voilà.
Où, effectivement, un petit personnage est juché sur Orion pour le guider.
Voilà. Et ça, c'est une mini-acrobatie, monter sur les épaules de quelqu'un quand on est... deux adultes, enfin quand c'est un enfant à monter sur les épaules ça va, mais un adulte c'est pas forcément si simple. Donc tout ça on répète vraiment avant et du coup je les amène. Et pour Valérie a beaucoup aimé ça, Valérie Dréville, parce que pour elle la caméra était quelque chose, un objet un peu inquiétant. Son père était cinéaste et elle a choisi la voie du théâtre comme pour ne pas mener un Oedipe peut-être sur un plan professionnel avec son père qu'elle adorait et pour pas aller sur son terrain. Et là, elle a beaucoup aimé justement sentir ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire une fois sur le plateau, le rôle étant intégré. Bon, parfois on a du mal, on a plus de mal à sortir une émotion, donc là on travaille ça. Mais sur le plateau, d'être dans cette relation angulaire avec la caméra, le décor, l'autre acteur, de travailler la géométrie dans cet espace du plan et de se projeter dans le champ, dans le plan, quoi. Donc je rends les acteurs très conscients de cette dimension-là. Et d'ailleurs, ça me joue des tours parce qu'ils deviennent presque toujours metteurs en scène après mes films, où ils ont envie de faire de la mise en scène, parce que être acteur, c'est une manière corporelle d'entrer en relation, de devenir partie prenante de la mise en scène.
Alors, Léa Fener, en voyant votre film, je pense que ça doit être assez différent comme méthode de tournage, parce qu'on a le sentiment, ce côté volcanique des personnages, ces éruptions d'émotions, il doit y avoir quand même une part d'improvisation, ou en tout cas, peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas de participation peut-être au scénario. D'ailleurs, Altman ou Cassavetes, que j'ai cité comme référence pour des raisons très différentes, le scénario et la mise en scène, Altman lui-même donnait beaucoup de liberté à ses comédiens. Comment ça se passe avec, par exemple, prenons ce couple Adèle Hanel et Marc Barbet.
Eh bien, par exemple, les scènes dont vous parliez tout à l'heure, c'est des scènes très écrites. C'est des scènes presque qui frisent avec l'idée du rire, l'idée du plaisir, l'idée de la surprise. Et nous, on s'est beaucoup amusé avec Catherine Payet et aussi Brigitte Sy, qui est intervenue dans la dernière partie du scénario, à ciseler ces mots, à tordre les situations, à les pousser jusqu'à leur extrême. Et donc, on avait à la fois cette architecture effectivement très construite, avec une envie de plaisir là-dedans, voilà, moi je vous disais tout à l'heure que je venais d'un pays où j'avais été sans cesse abreuvée de la question du verbe, comme ça, comme quelque chose d'une petite musique lors de l'enfance. Cette question-là est encore très présente pour moi. Mais c'est vrai que pour ce film-là, en même temps, en dehors de ces scènes dont vous parliez, il y a plusieurs fois où je me suis dit non, le plateau doit être un lieu de bataille, un lieu d'inconfort, et où on amène ce scénario terriblement décidé, où des plans aussi étaient là, présents dès l'écriture. Et en même temps, on trouve ce moyen que, par moment, le souffle du groupe arrive à y rentrer comme par effraction. Donc c'est plein de choses, c'est à la fois des séquences que nous avions beaucoup, beaucoup répétées. Et quand soudain nous arrivions à un moment où on sentait la présence de chacun là, vraiment effective, il nous arrivait de lâcher les vannes, oui, et de ne plus couper, et d'arriver dans un endroit d'inattendu, où les choses étaient moins prévues, mais en même temps, on avait ce désir-là, on se le laissait libre cours, parce que il y avait une présence qui avait mûri profondément. Donc il y a des moments comme ça dans le film où, oui, le groupe, son souffle, rentre dans des effractions dans l'écriture qu'on avait. Et voilà, et en même temps, c'est cette espèce de jeu d'équilibriste entre ces deux forces qu'on a envie de mettre en présence, ces décisions, ces mots, et des personnes très singulières. En plus, voilà, moi je joue avec des comédiens qui ont l'art de ça, qui ont l'art de la rue, de l'accident, de l'inattendu, de cette prise de risque, de ne pas savoir comment l'autre va réagir en interpellant le public. Donc il y a un grand plaisir, donc ils s'en privent pas du tout. Ils y vont, voilà. Mais en même temps, c'est délicat la question de l'improvisation, parce que on a l'impression hâtive que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du travail. Déjà dans la manière de pouvoir capter la vie, déjà il y a énormément de travail, et puis aussi derrière l'improvisation, il y a un peu, moi j'aime bien cette image de se dire que c'est un petit peu comme la préparation d'un hold-up, d'un casse de banque. On est là ensemble dans des lieux qui ne ressemblent pas à ceux qu'on va ensuite affronter. On prépare, on réfléchit, on se donne à chacun des clés, des billes, des histoires, une nourriture. Et en même temps, on a le plaisir de, une fois rentré dans le vivant et dans le vif du sujet, de l'inattendu derrière. L'appétit, voilà, l'appétit de jeu comme l'appétit de vivre que j'ai essayé de raconter avec ces ogres.
Pascal Breton, votre film, on en a parlé tout à l'heure, Suite armoricaine, le titre, évidemment, fait penser à la musique. Donc, on va écouter un morceau de musique de votre film, et peut-être, à partir de ce morceau, le choix de ce morceau, parler de comment vous avez conçu l'utilisation de la musique dans le film, parce qu'elle joue un rôle très important. Ce morceau en particulier, et plus généralement le rôle de la musique dans Suite armoricaine.
moment du scénario, je voulais des morceaux qui viennent un peu comme des tableaux, c'est-à-dire qui viennent pleins, comme raconter l'histoire, comme le tableau arrive avec ce que Poussin en a fait ou Patinir en a fait, comme presque l'irruption d'un autre discours artistique que le mien. Et pour la musique, c'est ce que je voyais aussi. On avait un personnage de musicien, donc qui incarne un musicien de l'époque de la scène rennaise, qui continue de faire de la musique, enfin comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, dans une indifférence à la notoriété, ou en tout cas dans une habitude de pas de notoriété, parce que le destin des musiciens était souvent très très difficile. J'avais le désir de quelques morceaux dès le départ. Ça, c'est quelque chose vraiment qui s'est construit sur la durée. On n'a pas préparé la musique en amont. J'avais quelques morceaux, un morceau de Siouxsie and the Banshees qui était important pour moi à l'époque, qui s'appelle Clock Face, ce qui veut dire le visage horloge, qui est aussi un morceau qui évoque l'idée du temps, comme beaucoup d'éléments du film. Et puis le morceau de Robert Wyatt, par exemple, qui est au café dans la scène de Françoise et John, donc notre héroïne et le musicien, je l'ai apporté au montage. Et puis j'ai travaillé avec un musicien et j'ai récupéré des morceaux d'électro parce que lui ne faisait pas d'électro et je voulais de l'électro pour les plus jeunes. Donc ça s'est construit sur une durée longue, la musique, en relation avec la bande son aussi, sur laquelle j'ai énormément travaillé personnellement. Parce que j'ai travaillé à la radio dans le passé, à Radio Nova, il y a très longtemps, et je montais à des choses aussi, je sais monter le son. Donc, je voulais que la musique arrive comme un bloc, une architecture de temps et d'harmonie, parce qu'évidemment, les voix aussi ensemble, c'est de la musique, ou l'harmonie des bruissements d'arbres où chacun avait... Enfin, j'ai passé énormément de temps au montage son, en réalité, pour créer une substance de son qui puisse contribuer à la sensation corporelle d'être dans un chemin creux en Bretagne ou une université en superposant des conversations, en créant une profondeur sonore. Et puis la musique qui arrive comme un bloc, ce qui donnerait sa forme au son et aussi au temps.
Alors Léa Fener, c'est pas le même genre de musique qu'on va entendre, qui est une chanson, qui est en conclusion de votre film. Peut-être vous pourriez en parler par rapport à votre récit et le rôle qu'elle peut jouer dans le film, dans l'économie du film.
Une femme à sa fenêtre réclame, rebelle dans son de l'âme, que souffle la tempête de l'âme, que souffle la tempête, la 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 la.
En fait, cette chanson, elle arrive dans le film alors qu'ils sont en train de remballer, d'agir, de démonter leur chapiteau, de ranger leur décor. Donc, encore une fois, cette chose très importante chez ces hommes et ces femmes, du concret, même pour partager la joie. Donc, ils sont là, ils s'embarquent et il y a ces mots qui circulent de lèvre à lèvre et qui, tout d'un coup, fait cœur comme une manière... Qu'a le groupe de trouver sa voie commune, avec autant de dissensions possibles que le film a pu en raconter, dans cette chanson qui avait été écrite par Philippe Catex, qui était une des chansons qui avait...
Et qui joue dans le film.
Et qui joue dans le film. Et c'est ça, c'est que on a eu cette chose un petit peu singulière dans ce film, dans ce rapport avec la musique, qu'en fait la musique était à l'intérieur de la troupe de comédiens. Elle était là avec eux comme un relais comme ça de mise en scène, et non pas comme une décision ensuite ultérieure, mais comme quelque chose qui venait du du corps de ce groupe. Donc c'était à la fois quelque chose d'extrêmement contraignant, pour le meilleur sens du terme, pour le monteur qui a dû ciseler et essayer d'inventer autour d'une matière qui était donc enregistrée en direct. Et en même temps, je trouve que ça se ressent sur les énergies, c'est-à-dire que c'est une musique qui... Où Philippe Catexte travaillait son accordéon comme dans un bœuf où les autres corps des comédiens pourraient être les autres instruments et en réagissant avec eux et à leur contact. Voilà.
Alors, Pascal Breton, peut-être pour terminer cette émission, le cinéma est un art visuel, ça a l'air d'être un pléonasme, mais parfois on l'oublie, quand on lit parfois des comptes rendus de films, on ne parle pas du tout de l'image, et puis beaucoup de cinéastes aussi oublient que l'image est tout de même quelque chose d'important dans un film, et dans vos deux films, dans les deux films dont on parle aujourd'hui, c'est frappant. Alors je voudrais justement parler du choix du format, c'est-à-dire le fait de tourner en scope, un format 2.35 qui donne justement une ampleur et qui donne à une histoire intime au fond.
J'ai commencé par faire des repérages, des photos dans l'université et j'étais pas très contente de mes photos. Je les ai regardées, je me suis dit ça va pas, j'avais le format classique des photos et puis je les ai toutes passées au format 2.35 à la maison comme ça, même en découpant, je les avais sur papier, je me disais là ça marche. C'est venu de façon expérimentale, mais ensuite je me disais que ça aurait pu arriver de façon cérébrale, que c'est pas tellement ma... Je pars rarement de la réflexion, je pars plutôt de la sensation, et puis je suis cérébrale dans un deuxième temps, en quelque sorte. Donc, je me rendais compte que c'était un très beau format pour éviter d'être écrasée par l'architecture d'époque pompidolienne que je filmais. Si on restait à hauteur, si on restait sous les arbres, on était bien. Si ça permettait aussi de montrer tous les personnages, des ribambelles de personnages, beaucoup de personnages dans le cadre, un amphithéâtre. Et puis aussi, on rejoignait quelque chose de la fresque, qui visuellement est l'équivalent de l'épopée, parce que j'ai eu assez vite l'impression de faire une mini-épopée, où je racontais d'ailleurs dans les projections, mais le nombre de gens qui ont été dans cette université, qui ont vécu cette histoire que je rencontre, c'est quelque chose d'étonnant. Donc ce format visuel permettait de marcher avec la narration, permettait aussi de laisser l'image se faire dévorer par la nature, par un arbre qui prend de l'espace.
Léa Fener, alors le choix du format ?
Le choix du format scope.
Tous les deux sont en scope.
Exactement.
Ils reflètent l'ambition aussi du film.
Oui, il y a cette envie. Moi, il y avait le côté, voilà, c'est une bande de caravanes. Il y a un côté western aussi. Ils vont à l'attaque des villes. Ils arrivent avec leur bande de sauvages et d'indiens et ils font des camps retranchés, mais tout en apportant le théâtre. Il y avait cette idée-là de scope. Et puis nous, la question d'image qui était quand même les plus importantes, c'était de se faire nourrir par une danse quand même, que la caméra puisse être comme ça la main qui guide le spectateur dans ce tourbillon des gens qui sans cesse sont en mouvement, parce que c'est une éthique pour eux, le mouvement, le fait de lutter contre l'immobilisme. Voilà.
Merci beaucoup. Donc je rappelle les titres de ces deux films qui vraiment donnent confiance dans le cinéma, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas déjà vu ça, que c'est une exploration et il y a un souffle et une invention qui m'ont vraiment ému considérablement. Donc j'espère que les auditeurs vont, dès ce week-end, voir Suite armoricaine de Pascal Breton. Merci beaucoup, Pascal Breton. Et à partir de mercredi prochain, ils courront aussi voir Les Ogres de Léa Fener, car les spectateurs doivent être aussi des ogres. Ils doivent pouvoir consommer de la pellicule de cette qualité.
Dévorer ça.
Et merci beaucoup, donc, toutes les deux. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, c'est un ouvrage de Jean-Loup Bourget, écrit avec Françoise Zamour, King Vidor, aux éditions Vrin. Jean-Loup Bourget, on vous connaît pour tous vos travaux importants sur le cinéma américain, et voici donc cette monographie qui d'ailleurs est publiée au moment où Lobster, qui restaure les films, sort un coffret peut-être exagérément intitulé trois chefs-d'œuvre, ce sont même trois films très intéressants de King Vidor, tous les trois de la même période, Street Scene de 31, Bird of Paradise de 32 et Our Daily Bread, notre pain quotidien, de 34. Mais on est là pour parler donc de King Vidor, de votre livre. C'est un auteur absolument purement américain, même s'il est d'origine hongroise, il est même texan. Et c'est un cinéaste qui a été, vous le signalez dans votre livre, vous insistez beaucoup sur cet aspect, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui s'est pris pour un auteur de films, ce qui bat en brèche un peu la théorie que les auteurs de films, on a commencé à en parler dans les années 50, parce que King Vidor affirme dès les années 20, et il sera un des grands cinéastes du muet, sa qualité d'auteur.
Oui, absolument. Il la revendique. Il écrit d'ailleurs assez tôt par rapport à d'autres cinéastes américains son autobiographie qu'il publiera en 1950. Donc c'est bien avant la diffusion de la politique des auteurs entre guillemets aux États-Unis. Et c'est vrai que à l'époque du muet, il est considéré surtout à cause de la grande parade et de la foule, et ensuite, alors, le passage au parlant à cause de Alléluia, il est considéré aux États-Unis comme, selon le mot d'un journaliste, le seul cinéaste né en Amérique qui puisse être considéré comme un auteur, c'est-à-dire à l'égal de Murnau ou Lubitsch et des cinéastes européens, mais il serait donc, enfin c'est en tout cas la vision de l'époque, il serait le seul né en Amérique à être un auteur, et il est considéré aussi comme tel en Europe, puisqu'il vient plusieurs fois en Europe. La première fois, il vient avec comme guide Scott Fitzgerald, avec lequel il est assez lié. Et il y a une espèce de rivalité, d'ailleurs, entre le cinéaste, qui, à l'époque, ne croit pas à l'importance du scénario et affirme que le cinéma étant essentiellement un langage visuel, eh bien, le scénario, c'est un excédent de bagage. Après, il changera nettement d'avis, mais il vient en Europe, notamment à Paris, où il est accueilli comme, effectivement, un auteur de cinéma. La Revue du cinéma, qui est une revue prestigieuse, lui consacre un numéro spécial au moment de la sortie de Alléluia en France.
Avec des textes de André Gide, voilà, de Michel Léris, de Darius Milhaud.
Oui, c'est ça ce qui est très frappant, c'est qu'on voit que c'est une revue de cinéma, mais qui ouvre ses colonnes à propos de l'accueil fait à Vidor, à des écrivains, des intellectuels de tous bords. Il y a Drieu-La Rochelle aussi, enfin, qu'on ne s'attendait pas à trouver particulièrement en telle compagnie. Et ensuite, alors, sa carrière, il a une longue carrière, puisqu'il a commencé à faire du cinéma en 1913 et il fait son premier long métrage en 1919, un film aujourd'hui perdu, malheureusement, jusqu'à des films expérimentaux qu'il fait tout à la fin de sa carrière, mais auparavant, il a fait encore des films comme Guerre et Paix, donc grande adaptation de Tolstoï avec Audrey Hepburn et Henry Fonda, entre autres.
Et puis L'homme qui n'a pas d'étoile, et Ruby Gentry, et La Garce, enfin avec Betty Davis, c'est-à-dire voilà. des films qui vont continuer à attirer l'attention. C'est pas du tout quelqu'un qui a eu une éclipse à l'époque
non,
du parlant.
Non, c'est-à-dire qu'il y a des films évidemment plus ou moins personnels, des films plus ou moins de commande, des films aussi sans doute plus ou moins réussis. On a pu dire de lui que dans ces films, il y avait énormément de séquences très, très brillantes, voire éblouissantes, mais qu'il y avait dans l'ensemble de la carrière peut-être moins de chefs-d'œuvre que chez d'autres grands cinéastes. Bon, tout ça peut se discuter. Mais je veux dire, il a tourné à Hollywood, dans les studios, jusqu'à son dernier film qui est Salomon et la Reine de Saba, un film à l'histoire assez compliqué, puisque Tyrone Power, qui jouait le rôle de Salomon, est mort pendant le tournage et a été remplacé un peu in extremis par Yul Brynner.
Alors dans la période muette, évidemment, la grande parade sur la guerre de 14 est un classique qui a influencé beaucoup les représentations plus tard de la guerre de 14, mais aussi la foule, qui est certainement un film qui a marqué le néoréalisme plus tard. Enfin, Chaplin et La Foule sont peut-être les deux grandes influences sur De Sica et d'autres cinéastes italiens du néoréalisme.
Oui, absolument. Influence qui a été reconnue par certains des cinéastes italiens. De même qu'on trouve d'ailleurs ce même néoréalisme avant la lettre dans certaines séquences, justement, de Street Scene, qui lui est un film qui était complètement méconnu et qui donc vient de sortir chez Lobster, et le DVD étant maintenant accessible, qui est un film très intéressant à la fois par son sujet, c'est-à-dire c'est la vie au quotidien des locataires d'un immeuble d'un quartier populaire de New York avec un mélange, une juxtaposition plutôt qu'un mélange d'ailleurs de toutes sortes d'origines ethniques diverses, toutes européennes mais diverses, et les tensions entre ces différents résidents. Et c'est un film d'ailleurs assez noir en même temps, avec une histoire d'adultère, de jalousie, de meurtre, d'intervention de la police, et tout ça dans un style qui préfigure un peu, dans, évidemment pas du tout par l'atmosphère, mais qui préfigure un peu Fenêtre sur cour, c'est-à-dire que on n'entre jamais dans l'immeuble, mais Vidor filme toujours de l'extérieur et sur les escaliers qui mènent à l'intérieur de l'immeuble et ce qui se passe, qu'on apprend par les personnages qui sont aux fenêtres et qui passent devant l'immeuble.
Alors, on a aussi un peu une image parfois de Vidor comme un philosophe, un sage, etc. Et en même temps, ces films sont souvent marqués par la démesure, par un excès. Alors, la sortie de The Revenant, par exemple, a rappelé à beaucoup de critiques le Grand Passage, son western de la fin des années 30, qui est d'une brutalité inouïe dans le traitement du massacre des Indiens, qui fait penser à la première séquence de The Revenant. Et puis, des films comme Duel au sol, ou bien Ruby Gentry dont je parlais, c'est-à-dire qu'il y a aussi un excès mélodramatique. D'ailleurs, ça a été aussi un roi du mélodrame.
Oui, alors comme beaucoup de grands cinéastes ou beaucoup de grands artistes, Vidor, il faut bien le dire, est aussi l'homme des contradictions. C'est-à-dire que on a beaucoup dit c'est un Texan, il a ce côté démesuré. Alors, le Grand Passage et The Revenant, ça, je pense que les gens comme vous et moi qui connaissent le Grand Passage ont immédiatement pensé à ce film de Vidor en voyant The Revenant. Et c'est vrai que c'est un film qui a été parfois très sévèrement jugé pour son racisme supposé, qu'il faut simplement remettre dans un contexte historique qui est celui d'une sorte d'expédition de vengeance des colons. Qui ne sont pas encore, ils sont américains, mais ils sont pas, l'Amérique n'est pas encore indépendante, on est encore dans l'Amérique coloniale du XVIIIe siècle, qui se venge, c'est une expédition punitive contre un village indien, parce que les Indiens sont les alliés des Français, donc de l'ennemi de la Grande-Bretagne. Et ça, c'est un thème qui parcourt évidemment le western. Alors, avec Duel au soleil, c'est plus compliqué comme histoire, puisque c'est un film produit par Selznick et Vidor, finalement, excédé par les interventions continuelles de Selznick, a mis fin au tournage. Donc, est-ce que l'excès vient de Selznick ou de Vidor? Mais lui a prétendu qu'il voulait faire un western de dimension beaucoup plus modeste, et finalement, le très beau film qu'il a fait ensuite, Ruby Gentry, La Furie du Désir, de nouveau avec Jennifer Jones, est sans doute un film beaucoup plus personnel, en tout cas sur lequel Selznick n'est pas du tout intervenu.
Merci beaucoup Jean-Louis Bourget. Donc je rappelle le titre de votre livre écrit avec Françoise Zamour, King Vidor, tout simplement, aux éditions Vrin, et également la sortie de 3 DVD chez Lobster, Street Scene, Bird of Paradise et Our Daily Bread. C'était Projection Privée, une émission de Michel Simon, à la prise de son Ludovic Auger. Elle a été réalisée par Laetitia Coya et préparée par Sylvia Favre. Vous pouvez la retrouver pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre de Perrine Kerbrand. Thank you.